Prochain arrêt sur demande, le Séchet.
Tout arrive.
Comment ça va?
Bonjour, très bien.
Bonjour. Bonne arrivée dans ce pays de loups.
Ah oui, oui.
On a Kilimandjaro qui est enneigé déjà.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que ça ne change pas tellement du temps de la Belgique. Hein.
Non, c'est un peu comme ça aussi.
Ouais, ouais, il fait un peu froid, un peu humide, enfin très souvent.
Mais la Belgique, ça, c'est bon bas. Hein.
Je suis un facteur de balafon. C'est une activité que je pratique depuis 35 ans au bas mot. C'est une activité qui m'a passionné, qui me passionne toujours. Les années ont passé, c'est peut-être un peu plus difficile maintenant d'être aussi actif qu'avant, quand on avait 40 ans ou tout ça, mais c'est toujours dans ma tête et dans mon cœur. Alors l'histoire a commencé assez particulièrement, parce que tout compte fait, quand j'étais très jeune, j'ai fait un peu de conservatoire en guitare classique, et après j'ai voulu voyager, je suis parti en Afrique, et en revenant de ce premier voyage où je n'avais pas rencontré le balafon, on m'a prêté un vinyle, à l'époque c'était des vinyles, avec une plage du vinyle où il y avait un morceau de balafon, et ça m'a fait un tilt. Vraiment un gros tilt qui est resté dans ma mémoire longtemps et qui s'est mis là dans un coin de mon cerveau. Et puis les années ont passé, tout ça. Et puis un jour, on a fait une fête ici plusieurs années après, dans la région où j'habite actuellement. Et là, il y avait un personnage très rocambolesque, très extraordinaire, qui est arrivé avec un petit instrument dont le son m'a déclenché de nouveau cette folie, cette envie d'entendre toujours cet instrument. Et au fait, je voulais lui en acheter un parce qu'il en fabriquait un peu. Et il m'a simplement proposé de venir à Genève en construire un avec lui. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais juste 31 ans et depuis là, ça a démarré, ma vie a démarré avec le balafon, quoi.
Alors au début, je me suis évertué à faire des balafons assez simples, parce que c'était déjà assez compliqué comme ça à capter toutes ces possibilités, quoi. Et petit à petit, ben, y a eu des demandes pour ça, ou ça, ou ça. Et nous aussi, avec mon ami Nicolas, comme on faisait pas mal de stages aussi pour jouer, on a proposé, on faisait chacun nos instruments, mais on proposait aussi aux gens certains instruments. Il y a eu des instruments, bon, les balafons standards, enfin standards au niveau de la forme, comme on connaît plus ou moins en général. Il y a eu des balafons portables pour le carnaval, parce qu'on a fait pas mal de sessions de carnaval. Et petit à petit, j'ai développé aussi, à mesure que la technicité s'améliorait, j'ai développé plein de possibilités différentes d'instruments. J'ai beaucoup fait de prototypes dans ma vie que j'ai vendus, parce qu'il fallait inventer des choses, et des fois, évidemment, inventer, c'est pas toujours simple quand il faut adapter chaque truc pour que ça fonctionne toujours au mieux, parce que le but final, c'est quand même la qualité du son. Et souvent, à la qualité du son, il fallait quand même allier la légèreté, l'instrument, le si, puis ça, fallait tout adapter. Et donc, j'ai été très étonné de voir que pour le moindre petit changement dans la construction, ça faisait varier tellement d'autres paramètres que ça devenait assez complexe quand même. On ne se rend pas compte, si on voit l'instrument comme ça, il y a toujours cette démarche de perfectionnisme qui est derrière et cette démarche d'efficacité acoustique. Ce dernier balafon, je l'ai fait en Pau Rosa, qui est une variété de palissandre, en fait. C'est un bois qui a un timbre très différent
de celui que j'utilise d'habitude. Souvent, j'utilise du padouk. Donc, c'est un bois un peu rouge, le bois corail, au fait. Mais j'aime bien le timbre qu'il a. Ça a une certaine dynamique hein, comme son quoi. Donc ce que j'aime bien aussi c'est le processus des membranes qui fait qu'il y a une espèce d'effet mirliton. Des fois il y a des gens qui me disent mais vous avez quelque chose qui est cassé sur votre instrument, mais je dis non, c'est normal. Je fais des instruments qui sont foutus déjà d'avance.
Le déclic, ça a été, en fait, j'étais un monsieur 10, voilà, 10 lexiques, 10, enfin, tous les 10 possibles. Et puis du coup, j'ai commencé de faire de la musique au gymnase, chez nous le gymnase, avant d'avoir le bac. Et puis, par chance, j'ai raté ma première année et je suis tombé dans une section avec la musique. Il fallait faire de la musique, il y avait une guitare qui traînait chez ma cousine, je lui ai demandé si elle me la prête. Et du coup, depuis, c'était les années 80, depuis les années 80, du coup, je fais de la musique. En fait, avant même la guitare, depuis l'âge de 5-6 ans, j'ai été dans les chorales de l'église, j'ai été dans les chorales de l'école. Et puis après, ça commence avec la guitare. À l'époque, il y avait beaucoup de réfugiés zaïrois. Du coup, j'ai fait de la musique zaïroise avec eux pendant 5-6 ans. Et puis, vu que les réfugiés en Suisse, ils avaient un statut très précaire, ils étaient assez aptes à disparaître du jour au lendemain. Du coup, dans ce groupe, j'ai fait la basse, après j'ai fait la percussion, après j'ai fait la guitare. Et puis c'est pour ça que justement maintenant, 35 ans plus tard, je joue une centaine d'instruments. J'ai fait peut-être 25 années de voyage pour étudier vraiment les instruments dans leur cadre traditionnel. Et puis je ne sais pas lire la musique, j'ai aucun diplôme, mais par contre, je sais jouer.
C'est un instrument qui m'a demandé beaucoup d'amour, ce que je lui ai donné d'ailleurs. Puis je le sens, je suis content quand il est fini, puis c'est chaque fois ça, quoi. C'est quand j'ai tendu la dernière cordelette des calebasses, parce que la construction d'un balafon, elle finit par le truc le plus long et le plus difficile, c'est d'attacher les calebasses dessous quand tout est déjà installé. Et comme je mets en général 4 ficelles par calebasse, je dois aller faire les nœuds dessous et j'ai mes mains qui sont dans un état pas possible. C'est un travail de longue, longue patience. Surtout qu'on a l'excitation d'avoir l'instrument. On veut l'avoir fini très vite, mais au fait, non. Il y a encore le dernier truc à passer, c'est l'attache des calebasses. Mais quand ça c'est fini, c'est juste extraordinaire.
Et comme un pincement de cœur quand l'instrument s'en va.
Ah, complètement, ouais, quand l'instrument s'en va. Celui-là, ça va bien, j'ai pu le garder, je vais le garder à peu près un mois à la maison, donc je peux jouer dessus. Mais des fois, il part tout de suite, ouais. Donc là, c'est un peu plus difficile, parce que c'est quand même. C'est quasiment comme un bébé, au fait. Ouais. J'ai un balafon africain qu'on m'a donné, que je devrais normalement réviser. Donc, sans vouloir parler du. Si tu veux, de la qualité acoustique, moi j'aime beaucoup parce qu'il a un accordage, il est non tempéré, mais il a un truc.
que je trouve vraiment dans cette gamme non tempérée, c'est ce caractère de balafon au début qui m'avait plu. C'était vraiment ça. Et je trouve presque dommage de le changer. C'est ce côté enfantin qu'il y a en Afrique. Et c'est ça qui m'a plu au début. Alors là-dessus, il y a des chants de femmes qui viennent. C'est juste un truc... C'est joyeux. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est vrai que la construction d'un instrument tel que le balafon est vraiment une aventure incroyable. Ben déjà, c'est pas notre culture, et puis en plus de ça, il faut aussi s'imprégner de ce qu'apporte cet instrument. En Afrique, ça va de soi, parce que c'est l'instrument de là-bas. Et ici, c'est un instrument qui est juste posé ici, et il faut faire quelque chose avec. Alors la construction, c'est toute une histoire, parce que au fait, je dois dire qu'au début, j'étais pas vraiment... bricoleur au début. Je faisais peut-être un peu des trucs dans ma maison parce que j'avais racheté une maison et tout, mais disons, ça n'a rien à voir avec, avec la facture d'instruments de musique. Et petit à petit, je m'y suis mis avec l'aide de cet ami de Genève et on a fait un bon bout de chemin ensemble parce qu'on était dans la découverte, et lui et moi, d'aller toujours plus loin dans le peaufinement de la fabrication de cet instrument.
J'ai eu la chance de rencontrer Claude quand il organisait ses festivals internationaux du balafon. On était 25, 30, 35 personnes qui jouions du balafon toute la nuit. Et pour moi, ça a été des moments inoubliables parce que c'est la personne qui a réussi à amener cette espèce de vibration du balafon en Suisse. Et d'habitude, on voit ça que dans les villages au Burkina, quoi. Et puis lui, il a eu cette espèce de génie d'amener ça dans la vallée Joux. Et du coup, moi, j'ai été un des heureux bénéficiaires de cette magie. Et puis, ouais, ça reste des moments qui sont ancrés. Je veux dire, ça, c'est les choses qui m'ont défini. Ça fait partie des choses qui m'ont défini.
Moi, je passe les lames à la braise, en fait. C'est pas pour le sécher. Contrairement en Afrique, je pense que souvent, il le sèche, parce qu'il n'est pas encore assez sec. J'ai du bois ici qui a 30 ans de séchage dans ma grange. Je veux dire, c'est pas un problème. Mais au fait, je le passe à la braise, au fait, comme des grillades. C'est un moment de stress, quand je mets 10 kilos de charbon de bois, et puis qu'à peu près à 80 cm, j'ai tout mon jeu de lames qui est dessus. Ça dégage une telle chaleur, il faut les tourner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans que ça brûle. Et au fait, ça cristallise les résines intérieures. Parce que même si le bois est sec, il reste des résines. Et puis ces résines, une fois qu'elles ont chauffé comme ça, je suis obligé de mettre des gants, je ne peux même plus tenir les lames, elles brûlent, quoi. Donc la résine, elle devient un peu comme de la mélasse, comme de la confiture, et elle a tendance à s'évacuer vers l'extérieur et à sortir au bout des lames, on voit des bulles, ça sort comme si on fait un pot de confiture, quoi. Et ça...
l'histoire de ça, c'est génial, c'est que ça cristallise les résines. Quand ça va se refroidir, ces résines, elles vont se vitrifier. Elles vont passer de l'état poudre à l'état vitrifié. Et ça, ça lie bien les fibres du bois ensemble. Et ça améliore quand même grandement la résonance. Voilà, c'est pour ça que je fais ce truc, mais c'est un sacré travail. On a même été jusqu'à, évidemment, construire notre propre calebasse. Parce qu'évidemment, ici, les calebasses, ça ne pousse pas. Et c'était vraiment juste le truc bien de dire on fait un instrument avec aussi les matériaux qu'on trouve ici. Donc, c'est vrai que le bois, il vient d'Afrique. Mais par contre, tout le reste, on a fait au mieux avec ce qu'on a ici. Donc, les calebasses, on a commencé à fabriquer les calebasses avec du papier journal et de la colle d'amidon collée sur des ballons. Mais au fait, ce n'était pas la panacée. Et petit à petit, on a amélioré la technique, on a trouvé de la cellulose en feuilles, enfin c'est une espèce de papier cartonné, avec de la colle d'os, la colle forte des menuisiers. Ça a donné des résonateurs assez incroyables, qui ont une brillance de son et une solidité redoutable. C'est quasiment incassable. J'ai cette impression que le son sort d'une manière beaucoup plus brillante et puissante. L'accordage des calebasses, ça prend un temps incroyable. Au début, on se faisait un peu ça avec mon ami Nicolas. On disait, voilà, c'est tel diamètre, enfin, telle circonférence, ça fait tel truc, machin. Mais au fait, moi, j'ai abandonné ça parce que déjà, après, on était embêtés. Je préférais faire toutes sortes de calebasses et puis de pouvoir prendre ce que j'avais besoin. Comme si on avait à disposition un arbre avec les calebasses qui poussent dessus, puis dire, tiens, celle-là, je vais essayer. Non, celle-là, elle ne va pas, je ne veux pas pour la mettre, je vais en prendre une autre. Enfin, bref, voilà. Quand je parlais des goulots tout à l'heure, on voit bien les calebasses comme elles sont. C'est pas forcément qu'une courge. C'est une courge avec un petit... c'est où il y a le pédoncule, ça s'élargit un peu. Ça fait comme un goulot de bouteille, au fait. Et donc, ça, c'est intéressant, parce qu'au fait, c'est grâce à ce goulot de bouteille qu'on peut arriver à positionner la calebasse au mieux sous la lame, quoi. Parce qu'il faut bien se dire que ça fait du monde, là, sous un balafon, quoi. S'il n'y avait pas ce goulot, ça serait très, très difficile d'ajuster au mieux le son, quoi. Donc, moi, je le fabrique avec... je prends... ça, c'est rigolo. Je prends... Il faut imaginer un ballon de baudruche. Et puis, c'est ces espèces de cartons ronds qu'on a au fond d'un rouleau de papier cul, quoi. Au bout du ballon de baudruche, je mets une ficelle là, sur le petit kiki, là. J'enfile le truc de papier toilette et je mets une pince à linge pour serrer le goulot sur le ballon. Et après, je le colle comme ça. Et puis, une fois que la calebasse et que tout est prêt, j'enlève ce goulot, comme j'enlève le ballon aussi dedans, d'ailleurs. Il ne reste que la coque en cellulose et en colle. Une fois que j'ai acquis certaines expériences de construction, j'ai commencé à compter mes temps de travail parce qu'il fallait bien facturer ça aux gens d'une manière plus ou moins quand même rationnelle. Et là, oh misère, quand je voyais le temps que je passais, ça me demande, pour un balafon haut de gamme, ça me demande à peu près 180 heures de boulot. Donc c'est là qu'on voit que c'est juste quasiment très difficile d'en vivre parce que je ne peux pas facturer les heures. Si je commence à facturer ces heures pour un instrument, comment on paye nos frais dans un garage? Bonjour. Et puis quand les gens me demandent, oui, ça coûte combien un balafon? Des fois, je suis un peu pantois comme ça, parce que quand on met ses tripes, je fais mes instruments avec les tripes, quoi. Autrement, j'en fais pas, ça m'intéresse pas. Donc, c'est difficile de vendre ses tripes, quoi. Franchement, combien coûte le kilo de boyau, combien coûte mon foie, qui est des fois un peu gros. Mais... enfin, voilà. À mon âge, j'ai 71 ans. Je pense qu'en Belgique, ils vont comprendre 71 ans. J'ai 71 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années que j'ai pris ma retraite, mais je continue à travailler. Alors, j'ai pas l'énergie aussi, j'ai pas la niaque, la même chose qu'avant, mais ça me prend un peu plus de temps pour faire le travail. Je prends ma vie différemment, je prends plus de temps pour moi, peut-être, et tout ça. Alors, s'il y a des urgences, je vais essayer de me démener pour remplir mon contrat. Mais si ce n'est pas forcément un truc à faire pour hier, par exemple, ben, en avertissant les gens, je dis « Ok, je vais le faire, mais ça prendra du temps. » Autrement, je laisse tomber, parce que j'ai plus envie de pression. J'en ai eu pas mal avec des gens qui étaient pressés pour ci, pour ça, puis il a fallu pour ci, puis il fallait pour ça. J'ai plus envie d'avoir cette pression. Moi, le stress, là, comme ça ne me branche pas.
Nous, on est des Suisses, donc on est un tout petit pays, tout petit, je sais pas, maintenant on est peut-être 9 millions. Mais il y a un truc chez les Suisses vraiment bizarre, c'est qu'ils observent et ils réfléchissent. Donc lui, il était dans sa forêt, il a entendu une émission sur les balafons, quand il était en train de couper les arbres dans la forêt, parce qu'il était bûcheron à l'époque. Et du coup, il s'en est suivi en voyage en Afrique. Et puis, comme bûcheron, en voyant le travail de l'Afrique, il a eu l'idée de faire ses instruments, non seulement non avec des calebasses, parce que les calebasses, ça ne pousse pas en Suisse, mais avec du papier mâché. Et il a travaillé avec du bois et en fait, ses instruments, même les balafonistes africains se les arrachent, parce que c'est des instruments qui ont un son de fou, quoi. C'est la technologie suisse avec des milliers, des dizaines de milliers d'années de technologie, ce qu'on dit la technologie primitive dans le bon sens du terme, ça veut dire les gens qui savaient vraiment ce qu'ils font, quoi, qui sont en connexion avec la nature et qui en tirent le meilleur. Et il a su joindre ces deux mondes, donc ouais, c'est extraordinaire, c'est sûr. Si je joue avec un balafon, ben, je suis en Afrique, et puis si je joue avec un balafon de Claude, ben, c'est l'Afrique plus, quoi. C'est l'Afrique avec toute la technologie et toute... un autre monde, quoi, voilà.
C'est très important le contexte social dans lequel je vis. Ici, au Séchet, c'est un petit village de 80 habitants, il faut bien se rendre compte. On se connaît tous. Et puis, les gens connaissent mon activité depuis les 40 ans que je la fais, quoi, 35 et quelques. Et ça, c'est porteur. C'est vraiment porteur. On est dans un village aussi où il y a beaucoup d'indépendants. Donc, tous ces gens connaissent ce que c'est que d'être indépendant puis de vendre le fruit de son travail, quoi. Et il y a beaucoup de respect mutuel, je sens ça. Et puis le contexte social, familial, il est vraiment important. La personne avec qui on vit, ça c'est incroyablement important. J'ai la chance de vivre avec une femme, avec ma femme, qui est tellement compréhensive. Parce que des fois, elle voit quand même les galères où je suis, et des fois, je suis tout le temps en train de bosser, le week-end aussi, et tout ça. Enfin, moi maintenant que je suis à la retraite, mais avant c'était comme ça. Et... de supporter des fois mes états d'âme, parce que des fois j'étais quand même désespéré, quoi. Désespéré aussi au niveau financier, quoi, parce que je voyais que ça tournait pas. Donc il y avait déjà aussi un support économique indéniable, parce qu'elle avait aussi un travail, et un support moral incroyable. Et ça, je lui suis tellement reconnaissant de m'avoir supporté, de porter comme ça pendant plus de 30 ans, quoi.
Instruments acoustiques singuliers, une série documentaire de Jean-Bernard Roser avec la participation de Claude Luisier et Christophe Erard. Musique de Claude Luisier, son additionnel à clevetyoffreesound.org. Production ASBL soundorigin.be, accompagnée par l'atelier de création sonore radiophonique et soutenue par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.